Suétone, vie de César. 1. Jeunesse de César, il est proscrit par Sylla. César avait 16 ans lorsqu'il perdit son père. L'année suivante, il fut désigné Flamine de Jupiter. Quoiqu'on lui fiancé dès son enfance à Cossutia, d'une simple famille équestre mais fort riche, il la répudia pour épouser Cornélie, fille de Cinna, lequel avait été 4 fois consul. Il en eut bientôt une fille nommée Julie. Le dictateur Sylla voulut le contraindre à la répudier, et ne pouvant y réussir par aucun moyen, le priva du sacerdoce, de la dot de sa femme, de quelques successions de famille, et le regarda dès lors comme son ennemi. César fut même réduit à se cacher, et, quoique atteint de la fièvre carte, à changer presque toutes les nuits de retraite, et à se racheter à prix d'argent des mains de ceux qui le poursuivaient. Il fallut que les Vestales et Mamercus Aemilius, avec Aurelius Cotta, ses parents et ses alliés, se réunissent pour obtenir son pardon. Il est bien établi que Sylla le refusa longtemps aux prières de ses meilleurs amis et des hommes les plus éminents, et que, vaincu par leur persévérance, il s'écria, par une inspiration divine, par un secret pressentiment de l'avenir, « Eh bien, vous l'emportez, soyez satisfait, mais sachez que celui dont la vie vous est si chère écrasera un jour le parti de la noblesse que nous avons défendu ensemble, car il y a dans César plus d'un Marius. » 2. Ses premières campagnes, son commerce avec Nicomède. César fit ses premières armes en Asie, où l'avait emmené le prêteur Marcus Termus. Chargé par lui d'aller chercher une flotte en Bithynie, il s'arrêta chez le roi Nicomède, à qui on le soupçonna de s'être prostitué. Ce qui confirma ce bruit, c'est qu'on le vit peu de jours après retourner en Bithynie sous prétexte de faire payer une certaine somme due à un affranchi, son client. Le reste de la campagne fut plus favorable à sa réputation, et à la prise de Mytilène, il reçut de Termus une couronne civique. 3. Son retour subit à Rome. Il servit aussi en Cilicie, sous Servilius Isauricus, mais pendant peu de temps, car à la nouvelle de la mort de Sylla, et sur les espérances qu'il conçut des nouveaux troubles provoqués par Marcus Lepidus, il se hâta de revenir à Rome. Toutefois, il ne voulut pas entrer dans ses projets, quelque avantage qui lui fût offert. Le caractère de Lépi ne lui inspirait pas de confiance, et l'occasion lui semblait moins belle qu'il ne l'avait cru. 4. Son accusation contre Dolabella. Il va étudier à Rhodes, il est pris par des pirates. Ses succès contre Mithridate. Ses troubles apaisés, il accusa de concussion Cornelius Dolabella, qui avait été honoré du consulat et du triomphe. L'accusé fut absous, et César résolut de se retirer à Rhodes, tant pour se dérober aux ennemis qu'il s'était fait, que pour y consacrer ses loisirs aux leçons d'Apollonius Molon, le plus célèbre orateur de ce temps-là. Dans ce trajet exécuté pendant l'hiver, il fut pris par les pirates à la hauteur de l'île Pharmacuse, et non sans la plus vive indignation, il resta leur prisonnier, l'espace d'environ 40 jours, n'ayant près de lui qu'un médecin et 2 esclaves du service de sa chambre, car il avait dépêché sur le champ ses compagnons et ses autres esclaves pour lui rapporter l'argent nécessaire à sa rançon. Il la paya 50 talents, et à peine débarqué sur le rivage, il poursuivit, à la tête d'une flotte, les pirates qui s'en retournaient, les réduisant sans pouvoir et les punit du supplice dont il les avait souvent menacés comme en plaisantant. Mithridate ravageait alors les pays voisins. César ne voulut pas paraître indifférent au malheur des alliés. De Rhodes, où il s'était rendu, il passa en Asie, leva des troupes auxiliaires, chassa de la province le lieutenant de ce roi, et retint dans le devoir les peuples dont la foi était ébranlée et douteuse. 5. Il est fait tribun des soldats. Revenu à Rome, la première magistrature qu'il obtint par les suffrages du peuple fut celle de tribun militaire. On le vit alors aider de tout son pouvoir ceux qui voulaient rétablir la puissance tribunicienne dont Sylla avait beaucoup retranché. Il fit aussi servir la proposition Plautia au rappel de Cinna, frère de sa femme, et de tous ceux qui, dans les troubles civils, s'étaient attachés à Lépide, et qui, après la mort de ce consul, s'étaient réfugiés auprès de Sérocius. Il prononça même un discours à ce sujet. 6. Il est nommé questeur, son origine. Étant questeur, il fit à la tribune aux harangues, et selon l'usage reçu, l'éloge de sa tante Julie et de sa femme Cornélie, qui venait de mourir. Dans le premier, il établit ainsi la double origine de sa tante et celle de son propre père. Par sa mère, ma tante Julie est issue des rois. Par son père, elle se rattache aux dieux immortels. En effet, d'Ancus Martius descendaient les Martius Rex, dont le nom fut celui de sa mère. De Vénus descendent les Jules, dont la race est la nôtre. On voit donc qu'unis dans notre famille et la majesté des rois, qui sont les maîtres des hommes, et la sainteté des dieux, qui sont les maîtres des rois. Pour remplacer Cornélie, il épousa Pompeia, fils de Pompée et petite-fille de Scylla. Mais dans la suite, il divorça d'avec elle, sur le soupçon d'un commerce d'adultère avec Publius Claudius, si publiquement accusé de s'être introduit chez elle sous un costume de femme pendant une fête religieuse, que le Sénat dut ordonner une enquête pour sacrilège. 7. Sa questure en Espagne, la statue d'Alexandre. Pendant sa questure, l'Espagne ultérieure lui échut en partage. En visitant les assemblées de cette province pour y rendre la justice par délégation du prêteur, il alla jusqu'à la ville de Gadès. C'est là que, voyant près d'un temple d'Hercule la statue du grand Alexandre, il poussa un profond soupir, comme pour déplorer son inaction, et se reprochant de n'avoir encore rien fait de mémorable à un âge où Alexandre avait déjà conquis l'univers, il demanda un continent sans congé, afin de venir à Rome pour saisir le plus tôt possible les occasions de se signaler. Les devins élevèrent encore ses espérances en interprétant un songe qu'il avait eu la nuit précédente, et qui lui troublait l'esprit, car il avait rêvé qu'il violait sa mère. Ils déclarèrent que ce songe lui annonçait l'empire du monde, cette mère qu'il avait vue soumise à lui n'étant autre que la terre, notre mère commune. 8. Ses projets. Étant donc parti avant le temps, il visita les colonies latines qui nourrissaient des prétentions aux droits de cité romaine. Il les aurait poussées à quelque audacieuse entreprise si, dans cette crainte même, les consuls n'avaient retenu quelque temps les légions destinées pour la Cilicie. 9. Il entre dans plusieurs conjurations qui avortent. Il n'en médita pas moins bientôt à Rome de plus grands projets. On dit en effet que, peu de jours avant de prendre possession de l'édilité, il entra dans une conspiration avec le consulaire Marcus Crassus et avec Publius Sylla et Lotronius, condamnés tous deux pour brigue après avoir été désignés consuls. Il devait attaquer le Sénat au commencement de l'année, en égorger une partie, donner la dictature à Crassus, qui aurait eu César pour maître de la cavalerie. Après s'être ainsi emparé du gouvernement, rendre à Sylla et à Autronius le consulat qu'on leur avait ôté. Tanusius Geminus, dans son histoire, Marcus Bibulus dans ses édits, et Sécurion le père dans ses discours, parlent de cette conjuration. Cicéron lui-même, pareil, fera allusion dans une lettre à Axius, où il dit que César effectua pendant son consulat le projet de domination qu'il avait conçu étant édile. Tanusius en ajoute que Crassus, soit peur, soit repentir, ne se montra pas le jour marqué par le meurtre, et que pour cette raison, César ne donna point le signal convenu, qui était, à ce que rapporte Curion, de laisser tomber sa toge de son épaule. Le même Curion, et M. Actorius Nason, lui impute encore une autre conspiration avec le jeune Gnaeus Pison, et prétend que c'est sur le soupçon des menées de ce Pison dans Rome qu'on lui donna un titre extraordinaire, le gouvernement de l'Espagne, que néanmoins, ils convinrent de provoquer ensemble une révolution, l'un au dehors, l'autre à Rome, et d'agir au moyen des Ambrones et des peuples qui sont au-delà du pont, mais que la mort de Pison fit avorter leur projet. 10. Son édilité, ses munificences. Édile, César ne se borna pas à orner le comitium, le forum et les basiliques. Il orna aussi le Capitole et fit élever, pour le temps d'une exposition, des portiques provisoires où il étala aux yeux du peuple une partie des nombreuses collections d'œuvres d'art qu'il avait rassemblées. Il donna des jeux et des combats de bêtes, tantôt avec son collègue et tantôt en son propre nom, ce qui fit que la popularité ne s'attacha qu'à lui pour les dépenses faites en commun. Aussi son collègue, Marcus Bibulus, disait-il en se comparant à Pollux, que, comme on avait coutume d'appeler du surnom de Castor le temple érigé dans le forum aux deux frères, on appelait magnificence de César les prodigalités de César et de Publius. César joignit à ses prodigalités un combat de gladiateurs, mais il y en eut quelques couples de moins qu'il ne le voulait, car il en avait fait venir de toutes parts une si grande multitude que ses ennemis épouvantés firent restreindre par une loi expresse le nombre de gladiateurs qui pourraient à l'avenir entrer dans Rome.